Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Un jour dans l'histoire reçoit aujourd'hui Sylvain Guggenheim et je suis particulièrement heureux. J'ai l'habitude de dire je suis très heureux de recevoir, c'est une formule de style, mais là je suis particulièrement heureux de recevoir Sylvain Guggenheim que j'avais déjà reçu au micro de Canal Académie à propos des chevaliers teutoniques, c'était il y a 2 ans si mes souvenirs sont bons. Et entre-temps, Sylvain Guggenheim, il y a eu 7 fameuses polémiques, je pense que nos auditeurs de Canal Académie en ont entendu parler, autour de votre livre « Aristote au Mont Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne », qui est un livre qui a été un véritable pavé dans la mare de l'université, puisque vous y remettiez en cause la transmission via le canal arabe des racines des textes grecs, donc au Moyen-Âge. Alors c'est un livre qui a fait polémique et je voudrais non pas me situer au niveau de cette polémique, au bas niveau de cette polémique avec toutes les insultes qu'il y a pu y avoir, et simplement vous avez ouvert une brèche dans l'historiographie. Quel bilan faites-vous 1 an et demi, 2 ans après la parution de cet ouvrage?
Le bilan est difficile à faire. Je dirais qu'on a raté une belle occasion d'avoir un vrai débat scientifique sous la forme de colloques mettant aux prises des gens représentant des opinions différentes. Et par exemple, il y a plusieurs thèmes que je traite dans ce livre et qui pourraient tous faire l'objet chacun d'un débat avec des historiens qui représenteraient sur chacun de ces thèmes des opinions différentes. Or ça n'a jamais pu avoir lieu, je pense que ça n'aura jamais lieu.
Il y a eu des débats, mais des débats qui n'étaient autres que des monologues.
Où je n'étais pas invité au colloque qui était organisé explicitement contre moi, où j'étais invité tout seul face à 40 personnes qui intervenaient contre moi, ce qui n'était pas une position très agréable et que je n'avais pas envie de faire ça. Et donc on a complètement raté l'occasion de faire des débats, alors que les débats étaient possibles puisque j'ai reçu un grand nombre de courriers de spécialistes de tel ou tel point disant que, en ce qui concerne leur spécialité, je n'avais pas fait d'erreur majeure, que j'avais apporté des choses qui étaient tout à fait correctes, et donc des gens qui défendent tel ou tel point que j'aborde dans mon livre. Mais ces personnes-là non plus n'ont pas eu l'occasion de se trouver mêlées à des débats contradictoires.
Alors même si vous avez été véritablement la victime, on peut le dire, hein, parce qu'encore une fois, il y a eu des insultes, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez encore une fois avoir ouvert une brèche? Est-ce que des étudiants osent venir vers vous et vous dire « moi, je souhaiterais faire des études d'histoire médiévale et m'intéresser peut-être à tel ou tel sujet que vous abordez dans votre ouvrage ?»
Non, pour ce livre-là, non. Les étudiants qui viennent vers moi pour travailler avec moi sont plutôt des gens qui veulent travailler sur l'histoire de l'Allemagne, des teutoniques, de la Pologne médiévale. Ce que j'ai en revanche, c'est des échos de jeunes chercheurs, de gens qui vont soutenir ou qui ont soutenu des thèses sur les Syriaques, par exemple, sur tel ou tel point de l'histoire culturelle médiévale et qui, au passage, m'indiquent qu'ils ont lu mon livre, qu'ils l'ont apprécié ou qu'ils sont en désaccord avec ou le contenu des arguments lancés contre moi ou les méthodes utilisées.
Il y a une école historiographique. Vous n'étiez pas le premier à remettre en cause cette idée. Jacques Herz, que j'ai reçu à plusieurs reprises à ce micro, qui est ancien professeur de la Sorbonne, était un professeur qui avait présenté plusieurs thèses dans ce sens.
Bien sûr, j'ai absolument rien inventé, rien découvert. J'ai voulu synthétiser ce que j'avais lu concernant un point particulier de l'histoire culturelle médiévale. Donc certainement pas faire un tableau complet de l'histoire culturelle du Moyen-Âge, ni faire un tableau complet de ce que l'on pourrait appeler les racines de l'Europe. Je ne parle pas du tout du monde antique romain, par exemple. C'était juste un point précis qui m'intéressait. Et à propos de ce point précis, la bibliographie que j'ai indiquée à la fin de l'ouvrage le montre, il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui vont dans le sens que je signale. Et d'autres historiens avant moi, depuis longtemps, avaient indiqué que finalement, il y avait dans l'histoire du développement culturel de l'Europe, il y avait eu pour la redécouverte des textes du monde grec, finalement, 2 voies différentes. Une voie qui était passée par des traductions d'abord en arabe et qui était ensuite arrivée en Europe, notamment par le biais de l'Espagne, et une voie qui était plus directe, qui venait directement du monde byzantin ou de grec installé en Europe occidentale.
Comment expliquez-vous, au fond, puisque vous le dites, vous n'innoviez pas, comment expliquez-vous cette polémique, au fond ?
C'est une polémique qui est fondamentalement politique. Le gros livre sorti contre moi chez un éditeur réputé est un livre qui multiplie des articles à contenu politique. dirigé contre le pape, dirigé contre Fernand Braudel, dirigé contre d'autres historiens et contre moi-même aussi, et pour des raisons qui se présentent comme scientifiques, mais où finalement la science sert à développer simplement une thèse. C'est-à-dire que les gens qui m'attaquent font exactement ce qu'ils me reprochent de faire, d'utiliser un savoir scientifique au service d'une thèse, entre guillemets, politique. Et les raisons sont profondément politiques, elles sont liées à l'état actuel du monde en général.
Alors, nous allons clore le sujet. Dans ce que vous disiez, il y a un terme que je retiendrai malgré tout, c'est celui de synthèse. Vous avez fait une synthèse et vous venez de publier, et je joindrai ce mot de synthèse à celui de pédagogie, puisqu'on sent dans votre œuvre une volonté pédagogique forte, et vous venez de publier aux éditions Talendier, tout d'abord, Regard sur le Moyen-Âge. C'est un ouvrage qui reprend une quarantaine de thèmes éclairant le Moyen-Âge. C'est une sorte d'initiation sur une période complexe, 10 siècles, et vous tenez en quelque sorte à faire l'état des connaissances sur chacun des points abordés. Il y a, oui, à la fois une volonté d'initier le public et de montrer finalement la complexité de cette période.
Oui, c'était le but du projet mené avec l'éditeur. Ça correspond effectivement à quelque chose qui est pour moi très important. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne et j'aime beaucoup l'enseignement. Et j'estime que quand on fait des livres, on doit les faire pour le plus large public possible et essayer de partager le savoir qu'on a pu acquérir. Et essayer de rendre accessible au maximum de gens tel ou tel point de l'histoire. On a la chance avec l'histoire d'avoir une matière qui est vulgarisable, plus facilement vulgarisable que les mathématiques par exemple. Donc, nous avons eu avec la Maison Talendier donc ce projet de présenter un choix de thèmes allant de l'histoire économique à l'histoire religieuse, en passant par la politique, sous forme de chapitres courts, 8-10 pages maximum, et de donner à chaque fois des clés d'introduction pour ces thèmes qui permettent ensuite à des lecteurs intéressés d'aller plus loin en utilisant la bibliographie, par exemple. Le but étant de fournir autant que possible l'état de la question sur chacun de ces thèmes, sans escamoter les débats, essayer d'être net sans perdre de vue qu'il y a des nuances à apporter et de le faire de la manière la plus scientifique possible et la plus claire, la plus accessible possible.
Arrêtons-nous un peu sur le contenu de votre ouvrage. Rien n'est plus faux que l'image d'un Moyen-Âge immobile.
Bien sûr, académiquement, c'est une période qui fait à peu près 10 siècles, qui va de Clovis à Jeanne d'Arc, et c'est une période où l'Europe a connu toute une série de mutations, de transformations importantes. Et il y a d'énormes différences entre les contemporains de Charlemagne et ceux de Louis XI.
Il y a des termes, et nous le verrons après en se penchant sur votre autre ouvrage consacré à la réforme grégorienne. Dans le titre « Réforme grégorienne », il y a le mot de réforme. Il y a aussi, dans « Regard sur le Moyen-Âge », un terme que vous utilisez aussi, c'est celui de réforme, évidemment, mais aussi de révolution. Vous essayez de sentir, à travers ces ouvrages, ces périodes de transition où on passe vraiment d'une époque à une autre.
Oui, c'est l'une des choses intéressantes en histoire. C'est essayer de repérer dans tel pays ou à propos de tel secteur économique ou de la vie politique, essayer de repérer à quel moment on voit s'opérer des changements qui ne sont pas des changements superficiels, qui sont des changements qui ont à leur tour des conséquences et des conséquences durables. Alors on peut le voir dans des éléments comme l'essor du monde paysan, la vague des défrichements et la très forte augmentation du potentiel économique de l'Europe au Xe, XIe siècle par exemple. On peut le voir avec l'émergence des cathédrales gothiques dans le domaine artistique et architectural. On voit des moments charnières où on a l'impression d'assister à une accélération des choses et à la production de phénomènes nouveaux.
Comment s'est opéré le choix de texte ? Il y a eu des choix cornéliens ?
Il y a eu des choix cornéliens puisqu'on était d'abord parti avec l'idée de faire 50 sujets et puis on ne voulait pas avoir un livre qui soit trop gros, donc on est tombé d'accord pour une liste de 40 et là il a fallu choisir, il a fallu éliminer des choses. Il y a une dizaine de chapitres que je n'ai pas mis. Le choix s'est fait ou en fonction de mes propres compétences ou en fonction de ce qu'on supposait être l'attente du public. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais bien voulu mettre quelque chose sur les défrichements, uniquement le défrichement, l'outillage paysan, etc. Il a paru à l'éditeur, peut-être à juste titre, que ça risquait d'être un petit peu rébarbatif. Un chapitre sur les universités, très technique, les méthodes d'enseignement aussi. Donc, on a essayé de faire à la fois des choses qui soient attendues par le public. Il faut bien parler de Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, pour aller vite. Et puis, il faut aussi essayer de présenter des choses moins connues, ce qu'on pourrait appeler l'Empire normand, par exemple, au XIe siècle, ou certains aspects de l'essor des cathédrales qui sont moins artistiques, plus techniques, plus technologiques, et qui méritent aussi l'attention.
Oui, là encore, nous le verrons à travers l'étude de la réforme grégorienne, mais la modernité et la nation n'est pas encore présente. Ce qui est frappant dans votre œuvre, c'est que vous ne vous contentez pas de l'historiographie française, vous allez bien au-delà, vous connaissez très bien l'historiographie germanique.
Oui, par la force des choses, comme j'ai commencé à travailler quand j'ai fait une première recherche sur le monde germanique, que je continue à le faire, que j'ai l'habitude de travailler en lisant des historiens allemands ou en discutant avec eux, ou des historiens polonais. Donc je suis assez influencé par leur manière de travailler. Et effectivement, je me rends compte que dans un certain nombre de cas, l'historiographie étrangère est indispensable. Mais je dirais que d'autres collègues diraient la même chose et qui, eux, sont plus spécialistes de l'histoire anglaise ou de l'histoire italienne. Il y a une historiographie très importante en Italie ou en Angleterre, bien évidemment.
Je m'arrête sur une des parties intitulée « Mémoire, images et mythes ». Et c'est vrai que vous parliez de l'inévitable Clovis, l'inévitable Charlemagne. Il y a évidemment Poitiers. Quelle est la place du mythe et de l'image à cette époque médiévale ?
Les mythes dont on parle sont en partie des mythes qui se forgent au Moyen-Âge et en partie des mythes qui ont été forgés par la suite à propos du Moyen-Âge, et donc qui ont donné une vision déformée du Moyen-Âge. Mais il y a, ne serait-ce d'ailleurs qu'à travers l'élaboration de vie de saint, d'une certaine manière, il y a l'élaboration, pendant l'époque médiévale, de récits mythiques, mythologiques, légendaires, qui visent à donner du passé une certaine image, de façon à influencer le présent de manière tout à fait classique. À propos de Clovis, il y a un très bon exemple, c'est ce que fait un Khmar de Reims avec le baptême de Clovis, où il transforme le baptême de Clovis en sacre. Et il crée la légende de la Sainte Ampoule, etc. Donc au milieu du IXe siècle, on transforme déjà de manière mythologique, légendaire, un événement des débuts du Moyen-Âge.
Alors précisément, Clovis, baptême religieux ou bien choix politique ou les deux ?
Certainement les deux. Manifestement, c'était un personnage qui avait une très très grande intelligence politique, qui a réussi à la fois militairement et politiquement, qui est le premier à faire l'unité de ce qui va devenir la France et qui a très certainement choisi le baptême de façon à se concilier l'appui des évêques, qui restent finalement les derniers représentants de l'aristocratie gallo-romaine, les plus importants en tout cas. Et avec l'appui des évêques, il est assuré d'avoir un état, si j'ose dire, politiquement qui soit stable. Quant à savoir s'il a eu une conversion profonde et témoignant d'une réelle piété, ça, il ne me semble pas que les sources permettent de le dire. Ce n'est pas impossible.
Oui, c'est une excellente transition parce que je me tourne vers Poitiers et Poitiers, vous le présentez comme un événement très mal renseigné. Très souvent, le chercheur est confronté à l'absence de sources et est obligé soit de faire des hypothèses, soit au fond de se taire.
Oui, Poitiers pose le problème que posent beaucoup de batailles médiévales, au moins jusqu'au XVe siècle, c'est-à-dire que ou bien on a très peu de sources, ou bien les quelques textes qu'on a sont très souvent enjolivés littérairement, quel que soit le camp auquel les auteurs des textes appartiennent. Et si on essaye vraiment de comprendre ce qui s'est passé concrètement dans une bataille, et essayer de comprendre aussi quelles étaient les motivations des participants de la bataille, on se trouve souvent face à des sources qui sont trop maigres. Les choses changent peut-être à partir du XIIIe siècle, et la situation documentaire va en s'améliorant au XIVe et XVe siècle. Et pour Poitiers, on a vraiment, finalement, fort peu de sources. Et malgré tout, ces sources permettent de dire un certain nombre de choses.
Alors, on a toujours l'image d'un Moyen-Âge obscurantiste, qui est une image héritée du XIXe siècle. Vous allez à l'encontre de cette image, hein, nous en parlions. Il y a une complexité des temps médiévaux. Et surtout, je m'arrêterai sur un chapitre qui est tout symbolique. C'est le Moyen-Âge qui invente l'amour.
Oui, c'est ce qu'on peut soutenir. Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge avait inventé la notion de couple.
Oui.
Et la notion de couple repose en partie, au moins, sur le sentiment amoureux. Et à travers le développement de la poésie courtoise et des troubadours, on a sans doute la naissance, alors peut-être pas de l'amour, parce qu'après tout, il existe dans d'autres civilisations à l'époque, il existait évidemment antérieurement dans le monde romain, le monde grec, dans l'Égypte antique, etc. Mais notre conception encore contemporaine de l'amour trouve une partie de ses composantes dans ce qui est effectivement créé au Moyen-Âge. Cette invention de l'amour courtois est quelque chose d'assez spécifique, qui va s'atténuer par la suite, mais qui va quand même encore conserver une réelle influence.
Il y a aussi l'image de la femme, on pense que la femme avait peu de rôle, or elle a sa place hein, au temps médiévaux, et l'amour, écrivez-vous, l'amour courtois exalte la liberté de la femme.
Oui, les textes de l'amour courtois exaltent une certaine liberté de la femme, une certaine supériorité au moment momentanée de la femme sur l'homme. Reste à savoir s'ils correspondent à une situation réelle, ça c'est autre chose. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas impossible à une femme d'exercer un pouvoir politique. Je le vois très bien, même pour des époques reculées, je ne suis pas le seul à le dire. Pour les 10e, 11e siècles, on voit des femmes qui se retrouvent veuves de rois ou de ducs et qui portent les titres de reine, qui portent les titres de duchesse, voire de duc. et qui exercent un pouvoir réel, qui commandent à des troupes, qui nomment des évêques, qui ont des sceaux, qui font rédiger des diplômes. C'est-à-dire que dans le milieu aristocratique, dans le monde des élites, les femmes pouvaient avoir un réel pouvoir politique. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas aller tomber dans un excès dans l'autre, ça ne veut pas dire que le Moyen-Âge avait l'idée d'une égalité de droit entre les hommes et les femmes, bien évidemment.
Je reçois Sylvain Guggenheim, auteur du livre « Regard sur le Moyen-Âge » paru aux éditions Talendier. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'ENS-LCH de Lyon. Vous avez déjà publié de nombreux ouvrages. Je vous ai reçu pour Les Chevaliers Teutoniques, paru aux éditions Talendier. Vous venez de publier chez le même éditeur Des regards sur le Moyen-Âge et chez l'éditeur Le Temps présent dans la collection Racines et Ruptures, vous venez de publier La réforme grégorienne. Je souhaiterais passer précisément à cette réforme grégorienne, mais peut-être m'attarder encore quelques minutes sur votre ouvrage Regard sur le Moyen-Âge paru chez Talendier, où vous présentez différentes images de ce monde médiéval, un monde fait de nuances et de complexité. C'est un point que nous allons revoir avec la réforme grégorienne, mais c'est aux temps médiévaux que véritablement se développe la Bible en tant qu'ouvrage.
Oui, c'est l'une des choses qui est plus fascinante dans le développement du monde médiéval, c'est la constitution de ce que nous appelons maintenant la Bible, c'est-à-dire tout simplement, tout bêtement, le fait de réunir l'ensemble des textes du corpus de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en un seul livre. Et de choisir un ordre de succession des différentes composantes de l'Ancien et Nouveau Testament. Jusqu'au Moyen-Âge, finalement, on avait des livres de l'Ancien Testament qui circulaient de manière individuelle. Je parle dans le monde chrétien, bien sûr. Ou des livres du Nouveau Testament qui circulaient aussi de manière individuelle et sélectionnée. Et le Moyen-Âge a vraiment construit la Bible, en gros, telle que nous l'utilisons. Mais il y a eu des petites modifications. C'est au Moyen-Âge qu'on va inventer la division en chapitres, c'est au Moyen-Âge qu'on va inventer le fait de mettre des prologues qui expliquent le contenu des textes bibliques, etc.
Vous utilisez un terme fort, vous parlez de Big Bang culturel.
Oui, que j'emprunte d'ailleurs à un auteur, André Paul, spécialiste de l'histoire de la Bible, aussi bien de la Bible antique que de la Bible médiévale. Et c'est à lui que j'emprunte cette formule qui m'a frappé et qui me semble tout à fait adéquate à ce qui s'est passé en effet. Une sorte de Big Bang culturel, oui.
Je renvoie nos auditeurs donc au Regard sur le Moyen-Âge de Sylvain Guggenheim, paru chez Talendier. Et je voudrais parler d'un autre Big Bang. La réforme grégorienne est un grand conflit d'idées. C'est peut-être le premier grand conflit d'idées de l'histoire européenne.
C'est ce qui semble en effet. On a une dimension vaste, puisque ça a concerné tout l'Empire allemand, une partie quand même de l'Italie, de la France et même de l'Angleterre. À la fois un conflit d'idées et un conflit armé, puisqu'il y a eu presque 50 ans de guerre au moment de la querelle des investitures, au moins en Allemagne, et un véritable conflit d'idées qui a été l'occasion de très nombreuses réflexions et d'un approfondissement de la réflexion des Européens sur la notion de pouvoir, finalement, de pouvoir dans la société civile, de pouvoir au sein de l'Église. Réflexion aussi sur la notion de sacré qui est très liée à celle de pouvoir. Et ça a été l'occasion d'un très grand choc qui a finalement contribué à forger le monde dans lequel encore nous sommes. L'Église actuelle n'est pas tout à fait l'Église que les Grégoriens ont bâtie, et encore moins celle qu'ils auraient voulu bâtir, mais elle a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait en relation avec la réforme grégorienne, de même que la conception du pouvoir politique de nos jours peut en partie provenir du choc de cette querelle.
Alors, selon l'expression, il y a la faute à Voltaire, et là, il y a la faute à Gélas Ier, qui fait une distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais n'est-ce pas, au fond, la distinction que faisait le Christ lui-même ?
Oui, tout à fait. Simplement, le Christ s'adressait à des gens qui étaient des individus, qui étaient en train de devenir chrétiens. Et finalement, en gros, il leur disait, vous êtes dans un monde qui est un empire, et vous avez à obéir à l'empereur, vous avez à obéir aux lois de l'État, de l'Empire romain. Et par ailleurs, vous avez votre propre vie de chrétien à mener. Ce que fait Gélas, c'est qu'il transpose la parole du Christ sur un plan qui est vraiment politique. Et à l'époque où Gélase écrit, donc en 496, il y a un empereur, encore il y a un pape. Et l'idée de Gélase est que pour gouverner l'ensemble de l'humanité, ou du moins l'ensemble de la chrétienté, eh bien les deux pouvoirs doivent être distincts, mais doivent coopérer. Il y a déjà l'idée, effectivement, qu'on sépare ce qui est spirituel et ce qui est temporel. Après tout, le terme même de laïque n'a de sens, en gros, que dans le monde chrétien. C'est la chrétienté, le christianisme, qui invente la notion de laïque.
Alors, précisément, vous parlez d'un terme qui a une interprétation bien précise pour nous, et vous commencez votre ouvrage par des définitions pour éviter tout anachronisme. Vous définissez à la fois l'idée de réforme et à la fois l'idée de libertas, qui ont à cette époque, encore une fois, la libertas au temps médiéval, au 11e, au 10e, 11e siècle, n'est pas la liberté du 18e siècle.
Non, on est toujours gêné quand on a affaire à des termes, même en apparence simples, qui viennent d'une époque donnée, pour les traduire sans les trahir justement. Les Grégoriens, le pape Grégoire VII en premier, a voulu défendre, revendiquer ce qu'il appelait la liberté de l'Église. Le terme n'a pas tout à fait le même sens qu'il aurait de nos jours. Vous n'avez pas à l'époque la notion d'une liberté qui serait un bien dont disposeraient tous les êtres humains de manière égale. La liberté de l'Église, c'est la possibilité de l'Église de vivre selon son propre droit, selon ses propres coutumes, et de manière autonome par rapport au pouvoir laïque. Mais le terme de liberté au Moyen-Âge désigne très souvent un privilège. Octroyer à quelqu'un une liberté, c'est lui octroyer un avantage que les autres n'ont pas. Donc c'est très différent du terme de liberté tel que nous l'entendons de nos jours. Même s'il y a évidemment des points communs, dans le sentiment d'autonomie par exemple.
Alors il y a un autre mot qui est important, c'est celui du titre même de votre ouvrage, hein, « La réforme grégorienne », paru au temps présent dans la collection Racine et Rupture. C'est le mot de réforme, et ce mot de réforme est important parce que signifie-t-il ? Est-ce qu'il signifie le fait de se projeter vers l'avant, d'opérer ce que nous appellerions une révolution, ou bien de changer l'état présent pour établir une réaction pour revenir à un état primitif, par exemple, de ce que fut l'Église au premier temps?
Alors, très clairement, le but des Grégoriens est de revenir à un monde antérieur qui est sans doute idéalisé et de revenir à l'Église primitive. Et de ce point de vue, le terme de réforme, mais qu'on trouve très très rarement utilisé à l'époque par les partisans de la réforme grégorienne, la notion de réforme est à comprendre comme un retour à une situation passée qui était meilleure que la situation présente. Et il y a en même temps une dimension chrétienne dans le mot de réformatio, qui est aussi l'idée de transformation de l'individu, mais de transformation à venir, transformation dans le futur, qui doit lui permettre d'accéder à un état meilleur. Et le mot réforme est donc assez ambigu. Il reste que dans les mouvements monastiques, l'idée de réforme, c'est toujours, non pas créer quelque chose de neuf, mais revenir au bon respect de la règle monastique que l'on doit suivre. Donc l'idée de réforme, mais nous ne parlerions pas de réforme de nos jours. On aurait du mal à utiliser le mot réforme dans le sens où il est utilisé au Moyen-Âge. Il y a vraiment une prime donnée au retour à un état antérieur, idéalisé.
La notion d'idéalisme est importante parce que je voulais précisément revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Vous dites que la réforme se déploya autour d'une double exigence, exigence de perfection morale et de suprématie des clercs, exigence de conformité à ce que l'on pensait être la volonté divine et un ordre juste du monde. La deuxième exigence est plus idéalisée. La première, elle correspond à une réalité que sont à la fois le nicolaïsme et le simonisme. Alors tout d'abord, Sylvain Guggenheim, qu'est-ce que le nicolaïsme, qu'est-ce que le simonisme et que souhaitait faire la papauté face à ces deux idées?
Alors il y avait effectivement deux pratiques qui étaient condamnées pour des raisons morales, voire théologiques. Donc le nicolaïsme, c'est-à-dire le fait pour un membre d'église, un clerc, d'être marié ou de vivre avec une femme en concubinage, et la simonie qui consiste à acheter avec de l'argent, une fonction ecclésiastique. La fonction ecclésiastique permettant de transmettre des sacrements, on considérait du côté grégorien, mais avant la réforme grégorienne, la simonie avait été dénoncée dès l'époque du Christ contre Simon le magicien, c'est la prétention de pouvoir acheter avec de l'argent, finalement, la grâce qui est transmise uniquement par le Saint-Esprit. Alors, la volonté de lutter contre la simonie et le nicolaïsme est présente avant la réforme grégorienne et sans remonter très loin en arrière. Elle est présente dans la politique d'un empereur comme Henri III. Et elle est présente chez le premier pape, ou premier grand pape réformateur, le Lorrain Léon IX, l'évêque Bruno de Toul. Mais ce que la réforme grégorienne va ajouter à ses exigences morales qui ne sont pas neuves, elle va ajouter une radicalisation dans la condamnation de ses fautes morales, une condamnation beaucoup plus sévère. Et par ailleurs, donc, elle va y ajouter une dimension d'ordre politique universel. C'est-à-dire qu'on va passer de la morale à la politique.
Justement, l'intervention du politique, elle se fait au niveau du pouvoir de l'évêque. Quel est le rôle de cet évêque? Puisque la frontière entre politique et religion est une frontière très ténue à cette époque.
À cette époque, les évêques sont des nobles et ils sont étroitement mêlés à la vie des nobles. Il n'y a pas une aristocratie laïque et une aristocratie ecclésiastique d'un côté et de l'autre. Il y a une aristocratie et les évêques, comme les nobles laïcs, se fréquentent. Les évêques vivent comme des nobles laïcs et les évêques ont aussi des fonctions. En dehors des fonctions religieuses et ecclésiastiques, ils ont, et c'est parfaitement admis depuis les Mérovingiens, depuis le Bas-Empire romain, les Mérovingiens, les Carolingiens, c'est admis par Charlemagne, etc. Ils ont des fonctions politiques. Ils sont officiellement les défenseurs de leur cité. Ils doivent prendre des mesures concernant l'hygiène, le ravitaillement, l'entretien des murailles, voire les opérations militaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mêlés aux affaires du siècle. Ça ne choque absolument personne, quasiment personne, avant la réforme grégorienne. Et ce que le pape Grégoire VII veut casser, c'est cette espèce de symbiose au sein de l'aristocratie entre les laïcs et les ecclésiastiques. Il veut que les évêques se consacrent uniquement à des tâches pastorales, ecclésiastiques, et surtout qu'ils coupent leur lien avec la féodalité, avec les nobles. Ce qui permettra au pape, au passage, de construire une église pyramidale et de contrôler le monde épiscopal. Ce qu'il ne peut pas faire si les évêques sont parfaitement insérés dans la noblesse et si les évêques vivent comme des nobles et avec les nobles.
Vous parliez de Grégoire VII, il donne son nom à cette réforme et il est associé à un autre personnage qui est Henri IV. Le conflit Henri IV-Grégoire VII est l'apogée en quelque sorte de la crise ?
Oui, parce que la réforme jusque-là n'avait pas entraîné de conflit. Et avec ces deux personnages, Grégoire VII d'un côté, Henri IV de l'autre, la réforme débouche sur un conflit, le conflit sur une guerre. Et on voit le pape et l'empereur se battre, ce qu'on imagine mal de nos jours, évidemment, avec des excommunications réciproques, des dépositions réciproques.
C'est un point d'ailleurs que vous abordez peu dans votre ouvrage, c'est l'idée guerrière. Vous présentez le conflit idéologique, la pensée, les forces intellectuelles en présence, mais il y a aussi un conflit guerrier.
Oui, il y a un conflit matériel, guerrier, faute de place. Là aussi, il a fallu faire des choix, comme toujours. Sinon, on fait un livre deux fois plus long. Ça aurait été très intéressant de parler de la guerre liée à ce qu'on a appelé à un moment la querelle des investitures. La querelle déborde largement simplement l'investiture des évêques. Il y a eu une véritable guerre civile en Empire. La politique du pape est venue à un moment où l'empereur d'un côté et les princes allemands de l'autre étaient également en conflit. Henri IV est en conflit avec les nobles saxons. Et finalement, d'une guerre opposant deux camps, on est passé à une guerre où trois camps s'affrontent. Ce qui explique des conflits internes, par exemple, dans les villes, entre les partisans d'un évêque nommé par l'empereur et d'un évêque désigné par le pape. Et on voit même des moines se battre.
Le conflit a une image, c'est celle de Canossa, qui a donné l'expression « aller à Canossa ». Et pourtant, paradoxalement, donc Henri IV va à Canossa pour demander pardon au pape. Alors, vous revenez sur la réalité de Canossa, voir si... Est-il vraiment resté trois jours avec une simple chemise, quasiment nue dans la neige? Je voudrais revenir simplement sur l'idée même. Il y a Canossa, mais il y a tout de même une victoire d'Henri IV. Dans un premier temps, le parti de la papauté est très loin de remporter la partie.
Oui, là, on ne peut pas dire que la réforme grégorienne ait vraiment triomphé. Canossa est un épisode qui est très célèbre, qui a stupéfait les contemporains, puisque un empereur a été obligé de s'humilier, suivant certainement un rituel. Donc on laissera au lecteur le soin de découvrir les détails de l'histoire. Et l'épisode a été l'objet de plusieurs interprétations. Il semble qu'Henri IV ait accompli une sorte de rituel qui lui permettait d'obtenir le pardon du pape, qui permettait au pape finalement de céder et de laisser l'empereur de nouveau maître de son pays tout en ne perdant pas la face. Donc il y a eu une espèce de bras de fer et qui s'est conclu sous la forme d'un cérémonial avec un rituel bien spécifique, une espèce de pièce de théâtre. Et ce qui est vrai, c'est que l'empereur, même quand il était déposé, et après avoir été, finalement, après avoir eu le droit de redevenir empereur, l'empereur ne perd pas le pouvoir en Allemagne. Mais il est en même temps toujours en guerre contre les princes. Et on ne peut pas dire que la réforme grégorienne est totalement réussie. Elle va réussir à faire passer un certain nombre de ses idées, petit à petit, dans la pratique. Mais, par exemple, elle veut détacher les évêques de leur lien avec les laïcs. On va arriver à effectivement avoir des évêques qui ne sont plus nommés par les laïcs, qui sont élus par les chanoines des chapitres cathédraux, mais en même temps, au XIIe, XIIIe siècle, les évêques d'Empire créent de véritables principautés. C'est-à-dire que là, de ce point de vue, la réforme grégorienne a complètement échoué.
Peut-être quelques mots sur Urbain II, qui est un personnage fascinant, parce qu'on connaît le Urbain II des croisades, mais alors que la croisade a un rôle, nous pourrons le voir en fin d'émission, puisqu'elle apparaît un peu comme une conséquence de la réforme grégorienne, comme une logique de la réforme grégorienne. Urbain II, c'est un personnage particulier dans cette querelle.
Oui, c'est certainement le grand pape de la réforme, sans minimiser Grégoire VII, sans oublier Léon IX. Urbain II a réussi à régler un certain nombre de conflits. Il a aussi tout bêtement réussi à empêcher que certains conflits n'éclatent et qui auraient mis en danger totalement l'œuvre de la réforme, la construction d'une papauté plus centralisée, plus efficace, etc. Il a vraiment réussi à maintenir le cap de la réforme et à éviter que la situation ne tourne au désavantage complet de la papauté, en reprenant les mêmes idées que Grégoire VII, mais en se montrant plus souple, plus pragmatique dans la politique.
Il y a une expression que j'apprécie dans votre livre, c'est que vous dites que la réforme n'est pas totalitaire. Tout est complexe dans ce débat d'idées et l'application est complexe, notamment à travers, on parle beaucoup de réseaux sociaux via Internet aujourd'hui, mais il y a des réseaux d'hommes à cette époque et ces réseaux, ce sont d'abord les moines qui se distinguent donc des évêques dans la hiérarchie ecclésiastique. Ils ont un rôle un peu à part et annexe qui est lié directement à celui du pape.
Oui, je veux prendre deux choses dans ce que vous venez de dire. La réforme n'est effectivement pas un projet que l'on pourrait appeler totalitaire, puisque les papes ne cherchent pas à légiférer dans la vie quotidienne, ils ne cherchent pas à remplacer les rois. Il n'y a jamais eu la volonté de la part de la papauté de légiférer. Il n'y a pas d'ambition théocratique. Il y a l'ambition d'avoir du pouvoir, un pouvoir qui soit indépendant de l'empereur et une suprématie morale sur l'empereur, voire la possibilité de déposer l'empereur lorsqu'il se conduit mal, mais la papauté n'a jamais légiféré dans le domaine quotidien. Le droit canon, le droit de l'Église ne concerne pas les laïcs, sauf pour la question du mariage. Mais pour le reste, les chefs temporels sont tout à fait libres de leur politique monétaire, etc. Alors, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la réforme a fonctionné à l'aide de réseaux qui se sont constitués, de même d'ailleurs que les partisans de l'empereur ont eux aussi, de leur côté, constitué des réseaux, ce qui s'explique très bien. Il s'agit de correspondances épistolaires, il s'agit aussi de gens qui circulent, les moines ne restaient pas, comme on le croit parfois, tout le temps enfermés dans le monastère. On se rencontre dans des synodes, dans des conciles, on se rend visite les uns aux autres, on échange des manuscrits et on arrive à suivre comme ça la circulation d'un certain nombre de textes, voire de pamphlets. Et les idées de la réforme grégorienne ont été diffusées par les légats que les papes envoyaient pour procéder à cette réforme concrètement dans les royaumes et à un échelon local. Elles ont été diffusées par des clercs, mais aussi souvent, beaucoup, par des moines, effectivement.
Alors nous allons revenir, Sylvain Guggenheim, dans un instant sur la diffusion donc de cette réforme grégorienne. Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je reçois Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire médiévale à Normale Sup à Lyon. Sylvain Guggenheim, vous êtes l'auteur dernièrement de deux ouvrages, Des regards sur le Moyen-Âge, paru chez Talendier, qui nous font découvrir la complexité de ces temps médiévaux et également la réforme grégorienne de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde. Il s'agit du sous-titre dans la collection Racines et ruptures des éditions Temps présent. Nous avons un peu évoqué la chronologie, nous avons évoqué ces réseaux qui permettent de diffuser donc cette réforme grégorienne qui est une révolution entre guillemets intellectuelle. Il y a une chose très importante, on a l'impression aussi que c'est aux temps médiévaux que se crée une véritable administration au sein de la papauté. C'est la naissance de la curie romaine.
Oui, tout à fait. Manifestement, des emprunts au fonctionnement de la cour impériale allemande, et la volonté de créer, sans trop d'anachronisme, ce que l'on pourrait appeler un État. On parlait de la monarchie pontificale, et très certainement liée à la politique avant Grégoire VII de Léon IX, la volonté pour le pape de se doter des moyens d'exercer une véritable politique. Donc d'avoir une administration, d'avoir une cour, c'est-à-dire une curie qui soit organisée avec une spécialisation de bureaux qui commencent à apparaître.
Est-ce qu'on peut parler d'une préfiguration de la modernité ?
On peut considérer que la papauté a constitué, à l'échelle du Moyen-Âge, ce que l'on peut appeler un État, et que de ce point de vue, la construction politique qui est menée par les papes de la réforme grégorienne s'inscrit dans le développement de ce que l'on a appelé la naissance de l'État moderne.
Donc la papauté, en gros, a trois siècles d'avance ?
la papauté a 3 siècles d'avance, effectivement, les souverains laïcs ne sont pas en reste. Bon, déjà, vous avez dans le monde orthodoxe à Byzance un véritable État très très bien structuré, un véritable empire avec une administration extrêmement riche et étoffée. Mais la réforme grégorienne a donné certainement un coup d'accélérateur à l'idée d'État, à l'institutionnalisation d'un certain nombre d'éléments qui permettent d'organiser la vie de tous les jours.
Vous parliez des intentions tout à l'heure, de la papauté. Il existe une différence entre les intentions et le résultat final. On passe en fait de l'affirmation d'une volonté de réforme à une réelle suprématie de la papauté, même si, encore une fois, nous ne tombons pas dans la théocratie.
Oui, ça c'est indiscutable. Le pape voulait un contrôle total de l'Église par la papauté et une indépendance totale par rapport au pouvoir laïc, avec en plus l'idée d'une supériorité du pape sur l'empereur et d'une supériorité en fait de l'ensemble des clercs sur l'ensemble des laïcs. Le spirituel valant plus que le temporel, les gens qui ici sur Terre sont au service du spirituel valent mieux que ceux qui vivent dans le monde temporel. Donc il y a une coloration religieuse au sens fort du terme qui est très nette dans la réforme grégorienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde européen ne suit pas cette tendance, que le pouvoir laïque est resté maître en grande partie de ses destinées et a refusé en fait de se plier entièrement aux décisions du pape et à la domination de l'Église.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le pape de désacraliser au fond le pouvoir temporel ?
Alors, c'était volontaire. L'idée est que les clercs doivent avoir le monopole du sacré, que tout ce qui est sacré doit passer par les mains des clercs. Or, les rois, les empereurs sont sacrés. Et de ce fait, ils ont un charisme, ils ont une vertu, ils ont une espèce de prestige, de force qui les place au-dessus des autres laïcs. Et même, d'une certaine manière, au-dessus des clercs, ou du moins à égalité, par exemple, pour l'empereur avec le pape. Donc la volonté d'enlever au pouvoir laïc la détention du sacré est une volonté consciente, semble-t-il, chez les grégoriens. Et c'est évidemment quelque chose que les rois, les empereurs ne peuvent accepter. Ils estiment que s'ils sont sacrés, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils le soient. Et c'est là à l'origine finalement d'un conflit entre les représentants du pouvoir laïque et l'Église qui va durer pendant des siècles au Moyen-Âge. Il suffit de penser aux querelles violentes entre Philippe le Bel et Boniface VIII par exemple.
Pour les temps contemporains, je pense notamment au Concile Vatican II, mais pas seulement au Concile Vatican II, il y a également le Concile de Trente. Le Concile de Trente a porté ses fruits dans le temps. Est-ce que la réforme grégorienne porte ses fruits également dans le temps ? C'est une réforme qui a lieu au XIe siècle, mais l'efficacité de cette réforme se fait sentir non pas dans l'immédiat. Comment ça ?
Oui, petit à petit, l'une des choses qui a finalement réussi par rapport au programme initial des réformateurs, c'est la volonté de distinguer nettement les clercs et les laïcs dans la vie de tous les jours et d'essayer de distinguer quel pouvoir relève des clercs et quel pouvoir relève des laïcs. On peut considérer que cet objectif des réformateurs grégoriens a été en grande partie réussi. Mais la soumission des laïcs à l'Église n'a pas été réussie. Les rois, notamment, ont toujours conservé leur indépendance d'action, de Saint-Louis à Louis XIV. J'évoquais à l'instant Philippe le Bel, sans parler des empereurs d'Allemagne qui vont lutter contre les papes, nommer des antipapes, par exemple à l'époque de Barberousse au XIIe siècle. Donc la réforme grégorienne réussit sur certains points et pas sur d'autres. Elle a réussi incontestablement dans sa volonté de créer une Église finalement de forme pyramidale avec le pape à sa tête et les évêques qui lui sont soumis. Alors qu'un autre modèle d'église était possible, qui aurait été un modèle plus décentralisé, ou un modèle où finalement l'église aurait été dirigée par l'ensemble des évêques. C'est ce qu'on va retrouver à l'époque du grand schisme, l'idée que le concile est supérieur au pape.
Elle a réussi dans sa démarche spirituelle contre à la fois le nicolaïsme et le simonisme.
Oui, dans la lutte concernant le célibat des clercs, des évêques, des prêtres, la réforme a en grande partie réussi, mais pas complètement. C'est une lutte qui a été à reprendre à plusieurs moments. Mais là, il y a un coup d'arrêt assez net qui a été porté. La lutte contre la simonie a vraiment revêtu une acuité très forte à ce moment-là, parfois d'ailleurs pour des raisons politiques, des raisons qui n'étaient plus tellement religieuses ou morales. Mais bref, mais on peut considérer que le problème de la simonie a été moins important par la suite, même si l'accusation est toujours utilisée et si les pratiques ont pu exister de temps à autre.
Vous dites que la réforme a implanté dans les esprits à la fois une idée de purification et d'imitation des apôtres et bien évidemment l'ultime imitation, celle du Christ.
Oui, ça semble être au cœur du programme notamment de Grégoire VII, peut-être aussi d'ailleurs des autres papes qui le suivent. C'est moins net sans doute pour Léon IX qui se situe dans un cadre un peu plus classique. Il y a une exigence de purification parce qu'il y a une forme aussi, sinon d'angoisse eschatologique, mais de sentiment très vif du rôle important que l'Église doit jouer dans la question du salut. Et l'univers de Grégoire VII est un univers conflictuel, manichéen et un univers eschatologique. Et dans cet univers, la volonté de se purifier ou de purifier l'ensemble de l'Église, voire le monde laïque, est une volonté importante, mais qui n'est pas partagée ni par tous les clercs, ni évidemment par l'ensemble des fidèles de l'époque.
Alors il y a une conséquence que j'ai beaucoup appréciée, qui montre que nous sommes vraiment dans une époque de transition et de révolution, toujours entre guillemets, nous l'évoquions tout à l'heure, c'est la place des textes et la place de la Bible, et finalement la place de la pensée. C'est la réforme grégorienne qui préfigure l'arrivée de la scolastique.
Ça, c'est ce que dit un historien allemand qui a étudié certains auteurs comme l'Alsacien Mangold de Lautenbach. Il y a, à la fin du XIe siècle, un bouillonnement intellectuel qui est tout à fait saisissant, qui a été bien étudié pour ce qu'on appelait la querelle des investitures. L'affrontement était tellement violent, les enjeux tellement importants. Est-ce qu'un pape peut déposer un empereur? Est-ce qu'il peut délier les fidèles d'un serment de fidélité, etc. Que pour lutter contre l'adversaire, des deux côtés, on a essayé d'avoir les arguments les meilleurs possibles. Et il y a, par exemple, la recherche de textes historiques et l'utilisation d'éléments historiques du passé comme preuve dans les argumentations. Il y a un développement de raisonnement de type logique qu'on essaye de rendre le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'en fait, la polémique, les intentions polémiques ont développé le sens critique, ont développé la capacité à argumenter. C'était lié évidemment à d'autres mouvements qui se passaient à l'époque ou qui étaient en train de se produire dans certaines abbayes, dans certains monastères. Mais il y a eu, du côté des impériaux comme du côté des partisans du pape, de réels progrès dans la démarche intellectuelle. Et effectivement, un historien allemand a parlé en allemand de fruscolastique, de pré-scolastique ou de scolastique précoce à propos de certains textes de la querelle des investitures.
Vous montrez également que, d'un point de vue juridique, la papauté avait peu de textes, au fond, pour défendre sa position et il y a eu une création d'un droit.
Oui, là, c'est aussi un élément qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'Église dispose effectivement d'un droit canon, mais qui n'est pas unifié. Il n'y a pas un code du droit canon. Il y a toute une série de textes juridiques qui viennent du passé, qu'on utilise, certains se contredisent, on ne les a pas tous. On n'a pas de collection de textes canoniques, de textes juridiques unifiés pour organiser la vie d'Église, ni organiser les rapports entre l'Église et le monde laïque. Et du coup, dans la réforme grégorienne, l'une des tâches importantes pour les réformateurs a été d'aller chercher des textes du passé, de façon à avoir des arguments juridiques en faveur de la suprématie du pape. C'est-à-dire que là aussi, c'est un progrès intellectuel dans l'histoire de l'Europe, c'était les progrès du droit. De même que du côté impérial, on va commencer à s'intéresser au droit romain. On a une timide renaissance, redécouverte du droit romain à la fin du XIe siècle en Italie, qui n'est pas liée seulement à la querelle entre le pape et l'empereur, mais qui a été vraisemblablement accélérée par cette querelle. On a besoin d'arguments juridiques. Le droit romain, c'est le droit des empereurs. C'est un droit au-dessus duquel il n'y a pas d'autre droit. Et ce droit peut être très efficace pour fonder le pouvoir de l'empereur et empêcher le pape de commander à l'empereur.
Vous dites que Urbain II n'aurait jamais pu faire son appel de Clermont 50 ans avant. Est-ce que ça signifie qu'au fond, la croisade est un couronnement de cette réforme grégorienne?
La croisade a beaucoup de causes et il y a beaucoup d'interprétations possibles de la croisade, mais la croisade trouve une partie de ses origines dans le mouvement de la réforme grégorienne. 50 ans avant, un pape n'aurait pas osé proposer une expédition qui soit à la fois un pèlerinage et un pèlerinage armé en Terre Sainte pour reprendre les lieux saints. Et même s'il l'avait fait, il n'aurait sans doute pas été suivi. Là, il est suivi, c'est-à-dire que l'autorité du pape est suffisante pour être obéie par des foules, et que par ailleurs, le pape a développé une conscience politique et religieuse qui lui donne l'idée d'encadrer, d'organiser ce pèlerinage armé qu'est la croisade. Et il est aidé par les circonstances, l'empereur est excommunié, le roi de France est excommunié, ce qui fait que la croisade va se faire sans les plus grandes têtes couronnées. Donc effectivement, la croisade est l'un des points d'aboutissement de la réforme grégorienne.
Merci beaucoup Sylvain Guggenheim d'avoir répondu à notre invitation et de nous faire aimer surtout cette belle période qui est le Moyen-Âge, que sont plutôt les temps médiévaux, je préfère l'expression. Je rappelle les références de vos deux derniers ouvrages, donc la réforme grégorienne de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde, aux éditions du Temps présent, et Regard sur le Moyen-Âge, paru aux éditions Talendier, une excellente initiation pour tous ceux qui souhaitent découvrir cette belle période. Merci.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.